Bonjour et bienvenue sur Logos FM dans l'émission Entreprise et Passion où je reçois chaque semaine un dirigeant d'entreprise. Aujourd'hui, nous allons parler de Solunature et je reçois Yvon Darignac qui est son dirigeant. Yvon, bonjour.
Bonjour à vous.
Alors Yvon, vous allez nous expliquer bien sûr ce qu'est Solunature, nous l'expliquer un peu plus de manière technique, mais vous allez d'abord nous parler de vous parce que vous avez un parcours qui est complexe.
Complexe, je ne sais pas. Au départ, j'ai toujours travaillé dans l'agriculture déjà et j'ai eu plusieurs fonctions, plusieurs métiers. Mais comme on peut le voir au jour d'aujourd'hui, l'agriculture, ce n'est pas d'hier qu'on commence à parler de la problématique des phytos, de la problématique de la fertilisation, de la place de l'agriculteur dans la société. C'est tous ces éléments-là qui, en étant aux premières loges, ont fait qu'à un moment donné, dans notre métier, la problématique se posait déjà, et depuis longtemps, de savoir comment l'agriculture devait évoluer et comment les pratiques agricoles devaient évoluer. Donc comment elles devaient évoluer en répondant à la demande d'une société qui veut de plus en plus, et ça se comprend, des produits sains. Et des agriculteurs qui devaient, eux, évoluer dans le métier. Je travaillais pour un grand groupe international et j'avais commencé à travailler sur la partie qui était une partie technique alternative qui permettait aux agriculteurs déjà de commencer à diminuer l'apport des produits phytopesticides. Et puis il y a eu un tournant professionnel et personnel, c'est que d'une part, sur le plan personnel, j'avais de plus en plus la conviction que on pouvait changer les choses. Et sur le plan donc professionnel, le groupe pour lequel je travaillais a souhaité faire une restructuration. Et comme j'étais convaincu de la démarche, j'ai repris cette activité en nom propre. Voilà comment s'est créée Solunature. Donc cette société a accentué toute son activité en travaillant à la fois sur des techniques qui permettaient d'avoir des solutions alternatives en production végétale, mais aussi sur les problématiques d'antibiorésistance. C'est venu après. Donc tout s'est enchaîné pour qu'on arrive au jour d'aujourd'hui à travailler sur différents marchés, avec toujours la même logique, qui est d'essayer d'avancer par l'innovation sur des techniques. La solution, elle est dans le fait que, oui, l'agriculture, l'apiculture, puisqu'on travaille aussi sur l'apiculture, doivent évoluer dans leur technique. Mais pour répondre à cette demande de notre société de consommation, de la même façon, il faut que les consommateurs fassent cette démarche, une partie de la démarche, pour aller vers ces types de produits. Et si on fait ça, eh bien, tout se tient. C'est-à-dire que vous avez une agriculture qui évolue dans ses traitements, dans ses pratiques, donc vers quelque chose de plus respectueux de l'environnement, de la biodiversité, qui conduit à une alimentation plus saine, des consommateurs satisfaits, et surtout, in fine, une agriculture qui est viable sur le plan économique.
Alors, pour l'exprimer un peu plus auprès des novices que nous sommes et dont je fais vraiment partie, comment est-ce que, concrètement, ça se met en œuvre? Quelle en est la création de Solunature?
Alors, l'année de création de Solunature, c'est 2017. Mais on avait avant, dans le groupe, un laboratoire spécialisé en génie fermentaire qui, lui, a 9 ans d'existence, est basé à Issoire.
D'accord. Alors, donc, aujourd'hui, comment est-ce que, concrètement, vous allez faire partager cette vision, la mettre en œuvre, et de quelle manière, surtout?
Alors, concrètement, quand on travaille sur la partie, on va dire, antibiorésistance, on donne aux animaux, dans les premières heures de naissance, un aliment complémentaire fermenté, donc qu'on a fait fermenter avec des bactéries. Et le principe, c'est que ces bactéries vont se développer à toute vitesse dans l'intestin d'animal et vont provoquer ce qu'on appelle une flore de barrière. Et quand les pathogènes arrivent, ils ne peuvent plus passer. En gros, il y a une communication entre les bactéries qui dit, celles qui sont installées disent aux autres, c'est plus la peine de venir, il n'y a plus la place, il n'y a plus rien à manger. Bon, Et donc, ça s'équilibre comme ça. Alors, le résultat, c'est quoi? C'est que vous avez une flore, un microbiote installé, qui fait donc office de barrière par rapport aux pathogènes. Donc, l'animal n'est plus malade, ou bien moins malade, donc vous n'avez plus besoin de le soigner, donc vous n'avez plus besoin de lui donner d'antibiotiques.
Alors, qu'est-ce qui est compliqué à ne pas pouvoir mettre au point? C'est le produit à la base dans vos laboratoires, ou c'est plutôt la mise en œuvre et l'acculturation, la compréhension, le partage par les utilisateurs potentiels?
De toute façon, quand vous êtes dans l'innovation, vous avez toujours des difficultés de mise au point. C'est-à-dire que ça ne tombe pas comme ça, quoi. Il faut faire plusieurs essais, plusieurs mises en pratique, des tests terrain. Mais une fois que tout ça est fait, après, c'est plus la deuxième étape qui consiste à faire changer les pratiques. Et changer les pratiques, ce n'est pas quelque chose de si simple que ça. Mais vous savez, on est tous concernés. Hein. Quand vous désherbez votre cours, c'était facile de mettre 40 millilitres d'eau de phyto dans 5 litres d'eau et puis de tout pulvériser. Donc ça, c'était facile. Alors maintenant, si vous dites on ne met plus de produits phyto, l'herbe, il faut ou la laisser, ou l'arracher, ou la brûler. Donc on est dans d'autres techniques qui sont possibles, mais pas forcément plus faciles à mettre en œuvre pour des questions d'habitude et des questions pratiques. Là, c'est la même chose, c'est-à-dire que, pour reprendre mon exemple, vous dites c'est simple, mais mettez-vous à la place d'un agriculteur, le veau vient de naître, il faut l'attraper, il faut lui donner tout de suite une dose pour installer ce microbiote, en faisant en sorte que la maman ne vous mette pas un coup de corne. Donc, vous voyez, c'est pas si... Sur le papier, oui, mais dans la pratique, c'est autre chose. Ça, c'est un des enjeux. Donc, nous, on est très liés avec le monde agricole. On travaille avec des groupes d'agriculteurs pour justement garder toujours cette logique ou cette vision de ce qui se passe derrière, une fois qu'on a mis le produit au point.
Alors, si j'entends bien, il y a une démarche un peu d'évangélisation de ces nouveaux concepts. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui sont plus perméables à ça, qui sont plus réceptifs, ou est-ce qu'il y en a d'autres qui, au contraire, demanderont plus de temps?
Je crois que tous les secteurs d'activité sont touchés, que ce soit le grand public, que ce soit l'agriculture professionnelle, que ce soit les secteurs spécialisés. On est dans un mouvement d'ensemble, peut-être. Alors, 2020 est une année compliquée, mais c'est peut-être aussi l'année du basculement, parce que c'est aussi un phénomène d'accélération. Quand nous, on faisait des audits d'élevage industriel et que dedans, on trouvait des colis hémorragiques, a priori, on disait, oui, mais c'est sous contrôle. Aujourd'hui, on ne dit plus ça du tout, puisqu'on s'est aperçu qu'il pouvait y avoir des facteurs de transmission d'espèce à espèce. Notre démarche... Je ne pense pas qu'elle soit évangélique. Elle est plus pragmatique. Vous savez, au fond, on revient aussi à des techniques anciennes, dans certains cas, qu'on remet au goût du jour. Sauf que ces techniques anciennes, elles se sont perdues. Et elles se sont perdues parce qu'on a oublié comment ça marchait. Vous voyez, c'est tout à fait plus de l'observation, c'est pratique. Ce n'est pas que du discours ou de la conviction, c'est de l'application. Ce qui nous intéresse... c'est qu'à la fois, on travaille à améliorer les coûts de production et à la fois, on valorise les productions des agriculteurs, en l'occurrence. Ça peut se décliner sur à peu près toutes les catégories, y compris chez le particulier, qui, aujourd'hui, est en recherche de produits bio ou plus sains. Donc, quand vous travaillez avec des purins d'ortie, si vous savez les faire fermenter, c'est un peu ce que nous, on sait faire, vous arrivez à d'excellentes solutions aussi efficaces que des produits phyto. Mais il faut s'y remettre et il faut passer par une phase d'apprentissage et peut-être un petit peu plus compliquée de mise en œuvre au départ.
Alors ça veut dire, vous nous avez évoqué la dimension animale, il y a la dimension agricole, je suppose, également. Donc là, comment se passe votre approche parmi vos solutions?
Alors, cette approche, elle est... de plus en plus écoutée ou prise en compte parce que en fait on a aussi une évolution de la demande. Aujourd'hui, ce qui tire le plus fort, c'est la demande de produits naturels, bio, labellisés, et tout ça, c'est un vrai appel d'air pour que les agriculteurs puissent justement évoluer dans leur technique de production et répondre à cette demande.
D'accord. Alors avant de parler tout à l'heure des abeilles, puisque c'est aussi un sujet sur lequel vous êtes très réceptif, va-t-on dire, eh bien, je vous propose une pause sur Logos FM. Et en tout cas, je suis très contente de savoir que j'ai bien fait de badigeonner tous mes arbres et que ça a été compliqué de trouver de l'ortie, mais on a fait du purin. À tout à l'heure sur le Logos FM.